If any member of the family should die whilst in the shelter from contamination, put them outside. Let them under the tank.
Toutes, c'est la musique adoucit les mœurs. La musique adoucit les mœurs comme tous les vendredis de 9 à 10 heures sur Radio Air Libre. Rediffusion le lendemain, le samedi de 14 à 15 heures, toujours sur Radio Air Libre. C'est le 87,7 FM si vous nous écoutez à Bruxelles et dans les environs. Vous pouvez également nous écouter en DAB+ et via vos applications pour les programmes pour tablettes, ordinateurs et autres téléphones. Vous pouvez même nous écouter partout dans le monde. En fond sonore, pour vous présenter cette émission, Django Reinhardt et Stéphane Grappelli avec le célèbre Nuage. De quoi vous présenter effectivement cette émission et son programme, son sommaire. Au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, comme d'habitude, plusieurs sujets et des chansons qui parlent des mêmes sujets de l'émission. On continuera ce qu'on a déjà commencé la semaine dernière, c'est-à-dire à parler de l'ONU, de ses différentes instances comprises sous la coupole du désarmement. Et plus particulièrement, on repartira de... Si mes documents veulent bien venir et ne pas rester collés ensemble, on repartira de la commission de consolidation de la paix et on verra ainsi d'autres domaines dans lesquels l'ONU est actif, comme celui sur l'état de droit ou encore la protection des femmes et des enfants en période de conflit. On parlera également du Mondaneum à Mons ainsi que avec Handicap International, des retombées, en quelque sorte, ou des restes des guerres, et entre autres les risques que, suite aux dérangements climatiques qui existent, et entre autres les inondations, des explosifs, des mines peuvent avoir bougé de place et représenter donc un plus grand danger pour les personnes. Mais on va commencer immédiatement en chanson avec Manic et une chanson qui évoque la guerre de 14-18 et les fameuses gueules cassées. On l'écoute.
Tous les champs de blé, champs de bataille ou champs d'honneur sont en fleurs. Les champs fauchés par la mitraille et la douleur. Toutes les gueules cassées sont au cimetière ou au musée des misères. Gueules émiettées, perdues en terre, de sang mêlé. Les champs de colza sous le soleil font le berceau des tombeaux, ceux des soldats couchés pareils sous leur drapeau. Sous les tombes, dans les champs, c'était une guerre de boue et de sang. Dormez, petit frère, elle aura bientôt 100 ans. C'était votre guerre, vous aviez 20 ans. Corps éclatés, chemin des dames nourrissent encore le décor. Les corps broyés, fondus aux arbres ensemencés. Restent les poilus sur les images, regards éteints à Verdun. Pauvres poilus, cloués sans âge à leur destin. Et des deux côtés de la frontière, on lit le nom des soldats. S'empiler le long des pierres et sur les croix. Dormez, petit père, sous les tombes ou dans les champs. C'était une guerre de boue et de sang. Dormez, petit frère, elle aura bientôt 100 ans. C'était votre guerre, vous aviez 20 ans. Dans nos mémoires infiniment, Ulrich ou Jean-Pierre couché dans les champs, dormez comme des frères, et l'on ne dira plus jamais qu'il faut faire la guerre pour gagner la paix.
Extrait d'un album sorti en 2010, Gueule cassée, qui faisait référence donc à la guerre de 14. Elle le nomme même en disant ce sera bientôt 100 ans. Forcément, c'était par rapport à la date d'enregistrement de la chanson. À part des chansons dans cette émission, il y a également des musiques que j'appellerais des musiques de fond. Ainsi, cette 9e symphonie de Dmitri Chostakovitch qu'on écoute pour l'instant, et interprété par le Wiener Philharmonic sous la direction de Leonard Bernstein. Cette 9e symphonie est en mi bémol majeur, comme ça. Paix, dignité et égalité sur une planète sainte, c'est en résumé le but du département désarmement de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui regroupe, je vous le rappelle, la quasi-totalité des pays de la planète. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas reconnus, mais C'est exception, même le Vatican est reconnu. Alors, on avait abordé la semaine dernière déjà cette énumération de comment ça fonctionnait, de quoi il s'agissait, etc., etc. Et on va reprendre où on avait arrêté la semaine dernière, c'est-à-dire à la consolidation de la paix, ou en tout cas des choses qui sont censées y contribuer. Et on va voir ça immédiatement avec toujours Shostakovich en fond sonore. Pour voir plus clair, la consolidation de la paix vise à aider les pays et les régions qui émergent d'un conflit, à réduire le risque d'émergence ou de résurgence des conflits, en renforçant les capacités nationales de gestion des conflits et en jetant les bases, d'une paix et d'un développement durable. Les stratégies de consolidation de la paix doivent être cohérentes et adaptées aux besoins spécifiques des pays concernés, fondée sur le principe de l'appropriation du processus par le pays en question et doivent inclure une série d'actions visant à atteindre ces objectifs. La consolidation de la paix comprend un large éventail d'activités, la surveillance des cessez-le-feu par exemple, la démobilisation, la réintégration des combattants, une aide au retour des réfugiés et des personnes déplacées, l'organisation et la surveillance des élections d'un nouveau gouvernement, le soutien de réformes du secteur de la justice et de la sécurité, et l'appui au renfort de la protection des droits de l'homme. La consolidation de la paix implique l'intervention d'un large éventail d'organisations du système des Nations Unies, précise le document, notamment la Banque mondiale, les commissions économiques régionales, les organisations non gouvernementales et les groupes de citoyens locaux. On n'y pense pas toujours comme ça que, par exemple, des organismes comme la Banque mondiale doivent intervenir après un conflit, après la fin d'un conflit. Or, c'est évidemment important, même si on peut ne pas toujours être d'accord avec les orientations, disons ça comme ça pour le dire poliment, prise par la Banque mondiale dans un certain nombre de cas. La consolidation de la paix a joué un rôle de premier plan dans les opérations de l'ONU, par exemple en Bosnie-Herzégovine, au Cambodge, au Salvador, au Guatemala, au Kosovo, au Libéria et au Mozambique, plus récemment en Afghanistan, au Burundi, en Irak, en Sierra Leone et au Timor-Leste. Alors, dans certains de ces pays, les résultats sont meilleurs que dans d'autres, comme vous le savez sans doute. Le Timor-Leste, ce n'est pas l'Afghanistan. L'Irak, ce n'est pas le Sierra Leone non plus. Alors, reconnaissant que les Nations Unies doivent mieux anticiper et relever les défis de la consolidation de la paix, le sommet mondial de 2005 a approuvé la création de la Commission de consolidation de la paix. Dans les résolutions portant création de la Commission de consolidation de la paix du 20 décembre 2005, l'Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil de sécurité l'ont notamment chargé de réunir tous les intéressés afin qu'ils mobilisent des ressources, proposer des stratégies intégrées aux fins de la consolidation de la paix et du relèvement après les conflits et donner des avis en la matière. Alors c'est là qu'on était arrivé la semaine dernière. Voyons maintenant la suite. La Commission de consolidation de la paix, eh bien, c'est un organe consultatif intergouvernemental de l'ONU. qui appuie les efforts de paix dans les pays sortant d'un conflit. Alors bon, organe consultatif, vous allez me dire, oui, ça ne veut pas dire qu'on doit suivre ce qu'il décide. En fait, il ne décide rien, mais il donne des conseils. Et parfois, c'est bien utile d'avoir des gens qui sont spécialisés dans tel ou tel domaine pour pas devoir repartir de zéro et de pouvoir, à partir d'une situation donnée et de l'analyse des membres de ce conseil, pouvoir à ce moment-là démarrer beaucoup plus vite et arriver plus vite à un résultat escompté ou en tout cas à certaines étapes vers ce résultat. Et donc, elle constitue un apport essentiel à la capacité de la communauté internationale à agir dans le cadre du vaste agenda de la paix. Il y a du boulot, vous vous en rendez compte, je suppose, rien qu'en ouvrant votre télévision tous les jours. Les résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité établissant la commission de consolidation de la paix ont également prévu la création d'un fonds pour la consolidation de la paix et d'un bureau d'appui à la consolidation de la paix. Évidemment, l'argent, comme on dit, est le nerf de la guerre, il est aussi, et encore plus peut-être, celui de la paix et de la reconstruction après un conflit. Passons maintenant à l'état de droit, qui est également une des préoccupations de l'ONU, parce que pour l'ONU de pouvoir discuter avec des partenaires qui sont connus, qui sont fiables et qui sont identifiés, ça c'est la première chose évidemment. Promouvoir l'état de droit au niveau national et international est donc au cœur de la mission de l'Organisation des Nations Unies. Établir le respect de l'état de droit est fondamental pour parvenir à une paix durable à la suite d'un conflit. Également pour la protection effective des droits de l'homme et pour un progrès économique et développement durable. Le principe selon lequel tout le monde, de l'individu à l'État lui-même, est responsable aux yeux des lois qui sont promulguées publiquement, appliquées de façon indépendante et identique, est un concept fondamental qui guide l'action des Nations Unies. Les principaux organes des Nations Unies, y compris l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité, et de nombreuses autres entités de l'ONU, jouent un rôle essentiel pour aider les États membres à renforcer l'état de droit. Alors, qui est à la tête de ce bazar-là ? La responsabilité de la coordination au sein du système des Nations Unies. Les activités dans ce domaine incombent au groupe de coordination et de conseil sur l'état de droit, qui est présidé par la vice-secrétaire générale de l'ONU, donc, et appuyé par le groupe de l'état de droit. Les membres du groupe appartiennent à 20 entités des Nations Unies engagées dans l'appui aux États membres pour le renforcement de l'état de droit. Le secrétaire général a désigné le département des opérations de paix et le Programme de développement des Nations Unies, le PNUD, donc PNUD, comme points focaux mondiaux pour offrir à partir du siège de l'ONU un soutien aux activités nationales liées à l'état de droit. Alors, ça peut représenter plusieurs aspects, police, justice, administration pénitentiaire, dans les situations de post-conflit et autres situations de crise. Alors me direz-vous, mais pour qui est-ce que l'ONU travaille ? Quels sont les gens qu'elle désire protéger en priorité ? Eh bien, tout simplement les femmes et les enfants, qui sont souvent les premières victimes en période de conflit. Dans les conflits contemporains, nous dit ce texte de présentation, 90% des victimes sont des civils, dont la plupart des femmes et des enfants. Les femmes disposent souvent de moins de moyens que les hommes pour se protéger. Avec les enfants, elles constituent généralement la majorité des populations réfugiées ou déplacées. Elles sont la cible récurrente de tactiques guerrières comme la violence sexuelle. Elles sont le plus souvent tenues à l'écart des négociations de paix, bien qu'elles soient à la tête de mouvements pacifiques et à l'origine du relèvement communautaire à l'issue des conflits. Alors, pour pouvoir assurer cela, l'ONU a pris un certain nombre de mesures et de dispositions traduites dans des résolutions comme la résolution 1325 qui date de l'an 2000 et par laquelle le Conseil de sécurité traite de l'impact disproportionné, tout à fait particulier des conflits armés sur les femmes. Cette résolution souligne l'importance d'une pleine participation active des femmes et dans des conditions d'égalité à la prévention et au règlement des conflits, ainsi qu'à l'édification et au maintien de la paix. Elle appelle les États membres à faire en sorte que les femmes participent pleinement, sur un pied d'égalité avec les hommes, à tous les efforts visant à maintenir la paix et à favoriser la paix et la sécurité, et invite instamment tous les acteurs à accroître la participation des femmes et à prendre en compte la parité des sexes dans tous les domaines de la consolidation de la paix. Alors après cette résolution de l'an 2000, donc, il y a eu trois autres résolutions sur les femmes, la paix et la sécurité. Toutes se concentrent sur deux objectifs clés, renforcer la participation des femmes à la prise de décision et mettre fin à la violence sexuelle et à l'impunité. Le Conseil de sécurité de l'ONU, donc, se préoccupe depuis 1999 de la manière disproportionnée dont les conflits affectent également les enfants. Un mandat de représentant spécial du secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé a été créé par l'Assemblée générale. C'est la résolution, bon, c'est un nom trop compliqué, je ne vais pas vous le dire, la résolution mettant en relief les effets disproportionnés de la guerre sur les enfants. Alors, il y a encore des domaines qui sont peut-être considérés par certains comme des domaines annexes, mais qui ont quand même toute leur importance et auxquels on ne pense pas en premier lieu quand on parle d'essayer de consolider la paix, de protéger telle ou telle catégorie de la population, comme les femmes et les enfants dont je viens de parler, en cas de conflit. Il y a aussi des choses auxquelles on ne pense pas en premier lieu, comme par exemple l'utilisation de l'espace atmosphérique. Et donc, il y a tout un débat qui se tient et toute une série de tractations qui ont cours sur l'utilisation pacifique de l'espace et pas une militarisation de cet espace et certainement pas de façon désordonnée, disons-nous. Je voyais une séquence de journal télévisé l'autre jour, où un spécialiste de l'espace disait, il n'y a pas de, par exemple, un truc qui manque dans l'espace, c'est un code de la route. Savoir qui a priorité sur qui au niveau des satellites et particulièrement des satellites privés. Donc viennent s'ajouter à ces satellites privés toute une série de satellites qui ne sont pas privés et entre autres des satellites qui sont dans le domaine du militaire, que ce soit de l'observation ou alors certains pensent à militariser l'espace et à y poster des armes et même éventuellement des armes nucléaires. L'ONU, en tout cas, veille à ce que l'espace extra-atmosphérique soit utilisé à des fins pacifiques. Et c'est pas récent, puisque ça date depuis 1957, quelques mois avant que le premier satellite artificiel Sputnik ne soit mis en orbite autour de la Terre. Donc en 1957-58, il était d'ailleurs une réplique de Sputnik qui était exposée à l'Expo 58 ici à Bruxelles. Je vais pas dire que je m'en souviens comme si c'était hier parce que c'est beaucoup trop petit pour ça. Mais donc, l'ONU a joué un rôle important dans le développement du droit international de l'espace et dans la promotion de la coopération internationale dans le domaine des sciences et technologies spatiales. Je lisais pas plus tard qu'hier, dans un journal, un compte-rendu du retour sur Terre d'un certain nombre d'astronautes qui étaient sur la station spatiale internationale. Et c'est le seul endroit où il y a encore des négociations, des discussions, où des Américains, des gens des États-Unis et des gens de la Fédération de Russie travaillent ensemble. C'est là-bas, en haut, dans l'espace. Et il y avait aussi, c'était deux personnes qui revenaient, deux personnes de nationalité saoudienne, de chercheurs, dont, tenez-vous bien, une femme. Alors quand on sait, évidemment, qu'il y a très peu de femmes qui arrivent à la station internationale, la station spatiale, le fait qu'une femme, et en plus saoudienne, vienne y faire des expériences, c'était quand même un truc assez intéressant. Et donc l'ONU promeut la coopération internationale dans le domaine des sciences et des technologies spatiales. Il y a également le Bureau des Nations Unies pour l'espace extra-atmosphérique qui est chargé de favoriser la coopération internationale aux fins des utilisations pacifiques de l'espace. Elle sert de secrétariat au Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique et à ses sous-comités. Le bureau fait partie de l'Office des Nations Unies à Vienne. Alors, pour toutes ces choses, l'ONU dispose d'un certain nombre de ressources financières, bien entendu, mais elles servent à quoi ces finances ? Au niveau des Nations Unies en elles-mêmes, essentiellement à faire du maintien de la paix. Au niveau des données, eh bien, les opérations de maintien de la paix. Il y a également les casques bleus de l'ONU. Il y a disponible pour faire connaissance, pour améliorer ses connaissances sur ce domaine, des vidéos, des expos en ligne, etc., etc. Je rappelle également, j'y fais souvent référence, ou j'utilise souvent les documents qui sortent de là dans cette émission. Quand je dis souvent, c'est plusieurs fois par an. Il y a également l'Observatoire Boutros-Ghali du maintien de la paix, qui est géré ici à Bruxelles par le GRIP, le groupe de recherche d'information sur la paix et la sécurité. Et cet organisme publie chaque mois un magazine en ligne où on parle des différentes missions de la paix, des problématiques horizontales que ça peut éventuellement générer, ou alors les problèmes qui se posent dans telle ou telle intervention. On a beaucoup parlé, par exemple, de la MINUSCO dans les derniers numéros. La MINUSCO, c'est la mission des Nations Unies au Congo. La plus ancienne de ces missions, elle est là depuis une vingtaine d'années. Et oui, voilà. C'est comme ça, et malheureusement, les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances, pour le dire poliment. Alors, il y a également, et je terminerai ce sujet avec cet aspect-là, il y a toute une série de thématiques sur lesquelles l'ONU travaille, soit en direct au niveau de l'Assemblée générale, soit dans des comités spéciaux, etc. Et je vais vous citer quelques-uns de ces sujets. À titre d'exemple, en plus du désarmement proprement dit, il y a dans les questions thématiques des travaux qui se font sur l'Afrique, sur l'alimentation, sur les changements climatiques, sur la décolonisation, la démocratie, les droits de l'homme, le droit international et la justice, l'eau, l'égalité des sexes, éliminer la pauvreté, énergie atomique, etc., etc., etc. C'était que le début de la liste, comme vous pouvez vous en rendre compte, liste alphabétique. Voilà, on va en rester là pour le moment avec l'ONU. On reviendra bien entendu à l'occasion et dans les mois et les années qui suivent. On reviendra certainement sur certaines de ces initiatives dont j'ai parlé brièvement ici et sur la façon dont les choses se déroulent au niveau de l'ONU, de ses comités, de ses sous-comités, etc., etc., et de ses initiatives. On va, par contre, changer de musique, quitter la symphonie numéro 9 de Chostakovitch et écouter une version du Déserteur de Boris Vian par Nico Mamone. Ou Mamone, ne me demandez pas comment on prononce exactement cela, mais voilà, on va l'écouter tout de suite. C'est une des nombreuses versions qui existent de cette chanson.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la paix, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise et m'est en déserté. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle était dans sa tombe et s'est moquée des bombes. Et c'est mon que des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demandez bon matin, je fermerai ma porte. On sur mon chemin. Je mendierai ma vie sur les routes des France, des Bretagne en Provence, et je criai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire. N'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner les vôtres. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
D'enfant, c'est comme un fruit qui se fend dans la jungle, pire encore, et que rien ne perdira. Vivant dans son trou comme un rat, mais que rien ne perdira. Car j'ai vu son visage dans le delta et la mangrove et la pourriture des villes. Dans le delta et la mangrove et la pourriture. Nouveau Tchernobyl. Bave et de bile, mais à nos portes qui sous pressent, le chloroforme et la compresse, dans la jungle pire encore, mais que rien n'empêchera, vivant dans son trou comme un rat. Vivant comme un enfant soldat. Car j'ai vu son visage dans le delta et la mangrove et la pourriture des villes. Dans le delta et la mangrove et la pourriture. Kilomètre 20, ils étaient bien 20, cheveux rouges comme de l'étoupe, avec la machette de coucou. Je l'ai posé près de la route, ainsi c'est au sale qu'il a bu. Cadavre de chien de zébu, c'est cette eau sale qu'il a bu. Car j'ai vu son visage dans le delta et la mangrove et la pourriture des villes. Dans le delta et la mangrove et la pourriture. Chaleur atroce, dans le ciel qui sous un temps gris, enrôlé de force, de la gosse Conakry, quel coup de crosse, ses lèvres noires qui me sourient. Dur comme de l'écorce de la gosse Conakry. Dans la jungle pire encore, car j'ai vu son visage.
De Brice Vian, chanté par Nico Mamone, et c'était Gérard Manset avec l'enfant soldat qui débordait même sur d'autres sujets liés à la guerre, conflit, etc. Mais Gérard Manset n'est jamais avare de commentaires dans ses chansons et dans ses musiques.
Musique.
continue cette émission La musique adoucit les mœurs sur Radio Air Libre avec en fond sonore Waltz for Debbie, une composition de Bill Evans, c'est-à-dire Cannonball Adderley et Bill Evans qui nous l'interprètent. Ça ne date pas hier, c'était enregistré en 1961, mais c'est toujours bien agréable à écouter, certainement en fond sonore, pour parler par exemple du Mondaneum à Mons, puisque c'est à Mons que finalement le Mondaneum, dont on reparle pour le moment assez souvent dans la presse d'ailleurs, a trouvé refuge après avoir erré de hangar en hangar ici à Bruxelles avec toutes les problématiques que cela peut représenter. Perte de documents, documents abîmés, documents dégradés, etc., etc. Et finalement, c'est à Mons que le Mondaneum et ses archives ont trouvé refuge. Et c'est là aussi que se passe une série de choses. Par exemple, cette conférence organisée par le Mondaneum et la Fondation Henri Lafontaine. Et c'est précisément Henri Lafontaine qui est le sujet de cette rencontre avec Pierre Van den Dungen. Alors, Henri Lafontaine, prix Nobel de la paix 1913, progressiste et engagé. Voilà le thème de cette rencontre qui aura lieu le 8 juin à 18h30 au Mondaneum à Mons. C'est au 76 rue de Nimy. C'est pas loin de la Grand Place de Mons, en fait. Si vous allez en train, vous devez monter. Ça monte assez fort. Hein. Et puis, vous arrivez à la Grand Place et c'est un peu plus loin. Très belle ville d'ailleurs de Mons, qu'il ne faut pas hésiter à aller visiter, ni d'aller visiter le Mondaneum, parce que c'est un lieu quand même assez exceptionnel. Alors ici, la rencontre donc du 8 juin, c'est gratuit, l'entrée est gratuite, mais il faut réserver, et vous le faites en réservant tout simplement sur le site du Mondaneum. Ça fonctionne comme pour une réservation d'une place dans un musée. À 18h30. Alors, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de la musique adoucie les mœurs, que c'est sur Radio Air Libre, tous les vendredis de 9 à 10h. Rediffusion de l'émission le lendemain, le samedi, de 14 à 15h, sur Radio Air Libre. Et c'est la bonne émission si les dieux de la radio nous sont favorables. En chanson avec une chanteuse belge. Il s'agit de Farida Zouy. Je ne sais pas comment il faut prononcer. La chanson s'appelle tout simplement La guerre et c'est sorti il y a quelques années déjà, en 2007 je pense, sur un label que je n'ai plus revu depuis lors, c'est Interstice.
So
Et toi, peux-tu ou ne peux-tu pas? C'est le sang salé dans nos entrailles.
Mais
le vent glacé au sommet des montagnes.
Mais
tous deux surgissent dans le néant, gercent nos cœurs et blessent nos enfants.
Oh la guerre
entre les hommes et les femmes. Chaque nuit, toute la violence qui brise nos envies et fait nos vies errantes, orphelines de guerre.
La guerre, c'était Farida Zouch et à présent une toccata au clavecin. Le claveciniste, c'est Andrea Buccarella, c'est un musicien italien. Et la toccata est de Jan Peterson Sweling. Il va nous permettre de parler de l'activité d'un handicap international et également des craintes que peuvent avoir les responsables des opérations de déminage quant à l'effet de tremblement de terre de la guerre, bien entendu, mais le tremblement de terre, les glissements de terrain dû aux pluies abondantes, etc., sur le parc de munitions à déminer. Les restes explosifs peuvent avoir bougé, explique Gary Tomes, qui est lui le responsable des opérations de déminage de Handicap International. Il explique ceci. Il est probable, dit-il, qu'une grande partie des munitions explosives qui jonchent les bâtiments, les rues et les cours d'eau aient été déplacées. L'effondrement du barrage d'Al-Talul, c'est en Syrie, c'est dans la campagne d'Iblet, au nord du pays. Donc cet effondrement de barrages, combiné à la montée des eaux du fleuve Oronte, a entraîné l'inondation de certains villages, ce qui pourrait faire migrer des munitions explosives dans des zones qui avaient été dépolluées ou qui n'avaient pas été touchées par des munitions non explosées. Donc, gros problème évidemment, quand on sait où sont des munitions non explosées, on barricade de façon à ce que les gens soient prévenus des risques et qu'ils puissent prendre un autre chemin. Par contre, là où on ne sait pas qu'elle se trouve, il n'y a pas moyen de faire ce travail de prévention, sinon ce n'est d'attirer l'attention évidemment sur la population. C'est ce que Handicap International a fait sur place. Et je suis content d'apprendre par ce biais qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a eu des opérations de secours qui ont pu franchir les frontières et aller porter secours aux populations dans différentes régions de Syrie qui étaient bloquées précédemment. Donc, dans le cas des munitions non explosées qui auraient bougé, Handicap International a donc diffusé des messages de sensibilisation sur les risques posés par ces munitions explosives lors de travaux à proximité de bâtiments partiellement détruits et d'enlèvement de décombres. Par ailleurs, 7041 personnes ont assisté aux séances de sensibilisation organisées par Handicap, donc, en Syrie, des experts dans l'handicap international mènent également des opérations de prospection et de dépollution sous-marine. cela, bien entendu, en plus des opérations normales, je vais dire, d'handicap international, qui est de venir en aide aux handicapés, entre autres de fournir des aides, des soins aux personnes qui ont été handicapées par un accident, par la guerre, etc., et leur fournir éventuellement du matériel comme des béquilles ou alors des prothèses, bien entendu, qui sont importantes. Ça ne coûte pas vraiment une fortune parce qu'on les fabrique sur place, mais évidemment ça demande un certain financement auquel vous êtes invité de participer. Il n'y a pas qu'un handicap international, évidemment, comme organisation d'aide, mais le travail qui est fait par handicap à la fois pour les blessés, les amputés et pour la prévention des accidents, entre autres aux mines et aux explosifs, et son travail de déminage est considérable évidemment et prend du temps et de l'argent. Après cette toccata, on va passer à autre chose. C'est un chanteur flamand qui s'appelle Frank Coles. Il n'est pas que chanteur d'ailleurs, il est essentiellement acteur. Il chante des belles chansons. Il est conteur également. Il travaille pendant 10 ans à Radio Ain à la VRT. Il a travaillé au conservatoire de Gand et d'Anvers. Et il a consacré, je ne sais plus en quelle année c'était, en 1995 je crois, il a consacré tout un album aux chansons de Jacques Brel traduites en néerlandais, dont la fameuse chanson Au suivant, qui fait référence au bordel militaire de campagne de la guerre d'Algérie, entre autres, alors que donc on avait devant l'absurdité que la France interdit la prostitution, sauf qu'elle engage via l'armée des prostituées pour servir de réconfort aux soldats qu'elle envoie en Algérie, peut-être ailleurs également, je suis moins au courant. Je vous propose donc cette chanson Au suivant, traduite par Ernst von Altena et interprétée par Frank Coles, et en néerlandais ça s'appelle En wie volgt, Au suivant.
Wie volgt. En wie volgt? Naakt, met een handdoek om een al te smalle lende. Een zeepdoos in mijn hand, mijn wangen rood gekleurd. Wie volgt? En wie volgt? Ik was pas 20 jaar, net als de hele bende. Bloot in een klammerij van ieder krijgt een beurt. Wie volgt? En wie volgt? Ik was pas 20 jaar, had nooit een vrouw bekend. Daar stond ik voor het kamperdeel van het regiment. Wie volgt? En wie volgt? Ik hunkerde zo naar wat tederheid en liefde. Of zelfs alleen een lachje, of alleen wat tijd. Maar wie volgt? En wie volgt? Die walmen dommerij, die mijn gevoelens griefde. Verslagen was ik al lang voor de echte strijd. Wie volgt? En wie volgt? En dan die rotsergeant, die nicht, die halve vent. Met zo'n stem maak je hele legers impotent. Wie volgt? En wie volgt? Ik zweer hier op de eikel van mijn eerste druiper dat ik die stem sindsdien mijn leven lang ontmoet. Wie volgt? En wie volgt?
dikke Norfolks tankstem van die altijd dronken gluiper. Dat is de stem der volkeren van bodem en van bloed. Wie volgt? En wie volgt? Sinds dat moment is net of elke vrouw en maagd die in mijn armen klaarkomt, lispelend, fluisterend vraagt. Wie volgt? En wie volgt? Vaak denk ik, laat de volgelingen hier op aarde in opstand komen tegen deze slavernij. Wie volgt? En wie volgt? Maar soms vraag ik me af, wat heeft de meeste waarde, te volgen of gevolgd te worden in de rij? Wie volgt? En wie volgt? Ik hak mijn benen af, word man of cherubijn of wat dan ook, als ik maar nooit meer hoef te zijn. Hij die volgt, hij die volgt.
En wie volgt, c'était donc Frank Coles. On termine avec, en fond sonore en tout cas, la musique de Ascenseur pour l'échafaud, Miles Davis en quartet, enregistré en 1958, figurez-vous, à l'ombre du Spoutnik. Si vous désirez rentrer en contact avec cette émission Cocktail Nouvelle Vague, vous pouvez bien sûr le faire avec plaisir via par exemple la page Facebook de l'émission, où je poste de temps en temps des choses qui sont moins radiophoniques, et donc à vous d'aller voir. Vous pouvez vous faire membre de cette page sans aucun problème, évidemment. Il y a également deux autres moyens de nous contacter qui sont des trucs assez traditionnels, qui sont d'une part le courrier postal adressé à Radio Air Libre, émission La Musique Adoucit les Mœurs, et 365A Chaussée d'Alsenberg, Alsenberg, 365A, donc à 1190 Bruxelles. L'adresse électronique de Radio Air Libre, c'est Radio Air Libre en un mot et au singulier @skynet.be. Vous mettez dans le sujet La Musique Adoucit les Mœurs, vous pouvez le mettre en abrégé LMAM, ça nous sera transmis. D'ici là, eh bien, je vous dis déjà au revoir et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.